Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
C'est une plongée dans l'histoire et la musique de Memphis que nous vous proposons ce jour. Après avoir étudié le patrimoine blues et les racines noires du rock'n'roll, c'est une autre forme d'expression que nous allons évoquer cette semaine, la soul music. Quand on se rend dans le sud des États-Unis, comme nous l'avons fait récemment en prenant un vol American Airlines, il y a un label qui symbolise ce style musical enraciné dans la culture africaine-américaine, c'est Stax Records. Au milieu des années 60, alors que Motown au nord proposait un répertoire plus pop, commercial et consensuel, Stax dans le sud marquait sa différence avec une tonalité plus rugueuse et brute. Le sud ségrégationniste devait sans aucun doute susciter cet esprit de rébellion sonore que les musiciens exprimaient à travers leurs œuvres. Booker T and the MGs, Otis Redding, Sam and Dave, les Staple Singers ou Isaac Hayes laissaient poindre cette fronde sociale dans chacune de leurs chansons. Nous avons donc décidé de rencontrer plusieurs brillants acteurs et témoins de cette aventure humaine et artistique hors norme. À commencer par David Porter. Pilier du label Stax Records, compositeur, producteur, chanteur, il a collaboré avec les plus grands et nous a accueillis dans ses studios tout neufs, car ce monsieur est aussi un entrepreneur et a bâti Made in Memphis Entertainment, une société dont l'enjeu principal est de soutenir la jeune génération à travers des productions Made in Memphis. Rencontre avec un personnage qui n'accorde que peu d'interviews, mais s'est plié de bonne grâce à cet exercice radiophonique avec chaleur et courtoisie.
Sound okay to you?
Oh yeah.
Sounds awesome, man.
C'est l'immense David Porter qui nous rejoint maintenant dans l'épopée. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps.
I'm really excited to be with you. It's a pleasure, Joe. Definitely so.
Vous êtes une personnalité majeure ici à Memphis et après plus de 50 ans de musique, vous avez créé Made in Memphis Entertainment. De quoi s'agit-il exactement?
Well, Made in Memphis Entertainment is really a desire on my part.
Made in Memphis Entertainment a pour ambition de préserver le patrimoine et l'esprit de Stax Records en faisant découvrir au monde entier de nouveaux artistes et de nouvelles productions issues de Memphis, Tennessee, avec cette tonalité soul que Stax Records savait produire. Voilà l'enjeu de cette nouvelle compagnie. Nous essayons de revitaliser cette émotion que vous perceviez jadis en écoutant les disques Stax, mais avec une musicalité d'aujourd'hui.
And that's what Made in Memphis Entertainment is going to be about.
Est-ce que ce genre d'infrastructure vous a manqué quand vous avez débuté?
Au départ, je travaillais dans une petite épicerie, juste en face de Satellite Records, l'ancêtre de Stax, et je ne pouvais imaginer que je serais l'un des piliers de ce label quelques années plus tard. Quand j'ai commencé à avoir du succès, j'ai réfléchi à la manière de pouvoir préserver cet acquis. J'avais fait des progrès, et je voyais ma vie évoluer. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire profiter la jeune génération de mon expérience. C'est la raison pour laquelle je me retrouve ici, avec vous. Tout cela est né de mon histoire à Memphis, avec Stax Records.
To where I am today, but it all started with Memphis and Stax.
The
Quand je regarde dans le passé, je constate que ma collaboration intense avec Isaac Hayes m'a permis d'acquérir un sens de la communication et de la transmission d'un savoir. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir être le chaperon de jeunes artistes à qui je fais part de mon expérience. C'est véritablement un honneur pour moi d'être perçu comme un mentor pour cette nouvelle génération issue de Memphis, Tennessee. Et ma nouvelle structure Made in Memphis en est le prolongement.
And Made in Memphis gives me a real opportunity to do that.
Qui étaient vos chaperons quand vous avez débuté?
Oh boy, the mentors that I had when I started were just so amazing. When I was in high school,
alors, mes mentors étaient des personnalités incroyables. Quand j'étais encore à l'école, un artiste du nom de Jerry Butler venait régulièrement à Memphis. Il se produisait avec son groupe The Impressions. Je me souviens m'être rendu devant les locaux de la radio où il était interviewé et j'ai attendu qu'il en sorte pour lui poser quelques questions. Il a généreusement accepté de répondre à toutes mes interrogations et des années plus tard, alors que j'étais devenu une personnalité reconnue, je suis retourné le voir et je lui ai dit « Te souviens-tu de ce jour où je suis venu te voir pour te poser quelques questions ?» Il fut un peu interloqué. Non, de quoi me parles-tu? Il n'avait aucun souvenir de notre rencontre. Mais cela nous prouve que Jerry Butler était et reste un personnage naturellement généreux qui n'hésitait pas à s'adresser à un jeune comme moi pour lui prodiguer quelques conseils avisés. À l'époque, je lui avais demandé s'il y avait une recette pour avoir une carrière longue et prospère. J'avais 19 ans et voilà ce qu'il m'a répondu. Sois ouvert et cherche la diversité. En d'autres mots, il me conseillait de tenter plusieurs disciplines afin de ne pas m'enfermer dans un rôle qui, certes, pouvait m'apporter du succès, mais aussi des déboires. Son conseil est resté gravé dans mon esprit. J'ai donc été un chanteur, mais aussi un compositeur, un producteur. J'ai multiplié les expériences pour ne pas me retrouver piégé par une incapacité à me renouveler. Jerry Butler a donc fait partie de mes mentors, mais il y a eu aussi Albert King et Little Milton. Je me souviens qu'Albert King avait l'habitude d'aller acheter à Memphis des bagues en diamants qu'il portait pendant ses concerts. J'avais pris l'habitude de l'accompagner dans les magasins, je pouvais ainsi converser avec lui et partager un peu de son expérience. Imaginez le bonheur pour un jeune artiste comme moi à l'époque d'écouter les mots de tous ces artistes prestigieux. Je n'oublierai jamais la générosité de ces grandes figures de la culture noire à mon égard. Grâce à eux, j'ai appris l'humilité, ce qui m'a beaucoup aidé alors que je commençais à avoir du succès. Et je pense être resté le même aujourd'hui. La vie vous apprend beaucoup de choses. Ce que Isaac Hayes et moi avons appris est la chose suivante. Après avoir écrit ensemble la chanson « You Don't Know Like I Know » pour le premier album de Sam & Dave, nous avons compris que le succès nous donnait l'opportunité de transmettre des messages. Dès lors, nous nous sommes dit qu'il fallait utiliser ce moyen pour parler à nos concitoyens de plusieurs façons. Il faut se souvenir qu'à cette époque, il était très difficile d'avoir un discours engagé. Il fallait donc trouver des subterfuges pour se faire entendre. Par conséquent, nos chansons devaient apparaître inoffensives pour les blancs racistes, pleines de sens pour la communauté noire. Isaac Hayes et moi-même avons rapidement pris conscience que nous étions devenus des messagers. Curtis Mayfield faisait la même chose de son côté. Ce que nous essayions d'imprimer dans les chansons de Sam & Dave, c'était cette volonté de transmettre un message qui parle au monde entier. Grâce à leur talent, ils sont parvenus à transmettre ces messages. Sam & Dave étaient des artistes passionnés qui ont réussi à préserver l'esprit, l'intention des auteurs par leur brillante interprétation. Mais tout provenait du travail créatif que nous avions effectué au préalable.
Merci beaucoup, David Porter.
Merci Joe, et comme je vous le disais tout à l'heure hors micro, j'adore la France et Paris, où j'ai d'ailleurs enregistré une partie vocale du fameux classique I Thank You, immortalisé par le duo Sam & Dave. Ça reste un grand souvenir, car seuls les Beatles ont réussi à nous priver du bonheur d'être numéro un dans les parades. Donc, merci de m'avoir invité sur votre antenne.
I can't hold that, but yes, thank you so much for having me.
I want everybody to get up off your seat. And get your arms together and your hands together and give me some of that old soul clapping. You didn't have to love me like you did, but you did, but you did. And I thank you. You didn't have to squeeze me like you did, but you did, but you did. And I thank you.
Après cette rencontre exclusive avec l'un des artisans du son Stax, le célèbre David Porter, nous avions besoin de prendre un peu de hauteur et de réfléchir au contexte social, racial, culturel, voire spirituel, dans lequel tous ces artistes de soul music ont écrit des pages entières de l'épopée des musiques noires. Nous nous sommes donc rendus chez un certain Robert Gordon. Il est auteur et documentariste. On lui doit plusieurs ouvrages consacrés à la communauté noire de Memphis, dont Respect Yourself ou encore Memphis Rent Party, sa dernière parution. Son analyse très poussée de l'identité musicale des musiciens noirs dans le sud des États-Unis nous a subitement éclairé sur le lien qui unit le quotidien des Afro-Américains et la soul music.
I think soul music, in a way, is made up.
La soul music est l'expression de la ferveur des chants d'église et de la douleur évoquée dans le répertoire blues. La soul music, c'est l'addition des extrêmes. En 1968, après l'assassinat de Martin Luther King, Isaac Hayes m'avait raconté qu'il était incapable de composer quoi que ce soit. Il se sentait complètement abattu. Pourtant, il avait composé Hold On, I'm Coming et Soul Man pour le duo Sam & Dave, mais il subsistait ce nuage noir qui planait au-dessus de sa vie. Pendant plus d'un an, il n'a rien pu écrire. Cette date tragique a été vécue comme une vraie blessure par toute la communauté noire américaine de Memphis. Certains blancs comprenaient les répercussions que pouvait avoir un tel drame, d'autres ne s'en souciaient guère puisque l'administration qui les représentait validait cette attitude. Se voiler la face et faire fi des troubles raciaux de l'époque était une facilité bien commode. Heureusement, il y eut des blancs qui appelaient au changement. Il ne faut donc pas faire de généralité et parler de la communauté blanche comme un seul groupe de personnes hostiles. Certaines chansons ont témoigné de l'engagement citoyen de certains Américains. Prenez Soul Man, c'est une chanson qui a été écrite en réaction à des émeutes dont Isaac Hayes avait été le témoin. On pourrait croire qu'il s'agit d'une œuvre légère par sa structure mélodique, mais le sens profond de ce titre est indéniable. David Porter et Isaac Hayes, les auteurs de ce classique, devaient réfléchir à la manière de toucher le public. Ils ont donc transmis un message en musique avec des mots qui claquent et se retiennent.
People with a message, you know, through a hit. So let's write a hit, but we'll pack it with some extra punch.
Après l'assassinat de Martin Luther King, il y a eu le festival What's Stax pour remobiliser les troupes. Est-il encore possible aujourd'hui qu'une telle fronde bouscule les consciences?
Well, you know, I guess I back off. I can't agree that
Je ne dirais pas que cet événement était militant. Certes, il s'agissait d'une réunion d'activistes à grande échelle. C'est en fait le vice-président de Stax, Al Bell, qui, en tant qu'Afro-Américain, voulait dénoncer les dérives de la société. Il voulait prouver qu'il pouvait remplir un stade de Los Angeles rien qu'avec des artistes noirs. Il voulait prouver qu'un public noir pouvait se conduire dignement sans que la police n'intervienne. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Et c'est aussi devenu l'un des albums live légendaires de Stax et un film historique. Il a gagné sur toute la ligne en organisant ce concert. En réunissant tous ces artistes, Al Bell a renforcé l'unité des Noirs d'Amérique. Jesse Jackson a d'ailleurs prononcé son fameux discours « I'm a man » ce jour-là. Stax n'a pas manqué cette opportunité de réaffirmer la force du peuple noir. Et pourtant, je n'y vois pas du militantisme, car aux États-Unis, le terme « militant » renvoie au mot « militaire ». Il n'y avait pas de violence armée durant ce festival. Je préfère le mot « activiste » pour décrire l'intention des organisateurs.
Et pour moi, Watt Stax était activiste, absolument, mais militant, pas.
Le militantisme chez nous s'apparente davantage à l'action des Black Panthers qui s'autorisaient à utiliser des armes si nécessaire. Ils s'opposaient directement aux forces de police. À San Francisco, par exemple, les Black Panthers étaient les vigies de la communauté noire et si la police molestait un citoyen noir, ils étaient prêts à intervenir. La confrontation faisait partie de leur philosophie politique. C'était très différent de l'humeur de Watt Stax.
You're awaiting a confrontation, but that's the difference to me.
We're getting at the ring right now. The brother that all of us have been waiting for. The brother that all of us have been waiting for. The one we've been waiting for. A bad, bad brother. Isaac.
Depuis le début de cette émission, nous vous parlons de soul music, du label Stax Records. Vous imaginez bien que nous avons visité ce haut lieu de la culture noire où nous attendait Tim Sampson. Ce monsieur est le directeur de la communication de la fondation Soulsville, qui gère le musée Stax et la Stax Academy, une jeune institution qui vient en aide aux plus démunis en leur offrant un avenir à travers la musique. À bout de bras, Tim Sampson fait vivre cette académie pour qu'aucun jeune noir ne reste sur le bord de la route et pour revitaliser un héritage culturel qui fut si controversé il y a 50 ans.
Toward the end of Stax Records, the white business community tried to choke it out of business. They basically...
Lorsque l'aventure Stax s'est achevée, la communauté blanche a tenté de faire disparaître ce répertoire de manière à se débarrasser de cette musique si encombrante. Quand à l'automne 2016, le Musée national d'histoire africaine-américaine a vu le jour à Washington, nous avons fait venir 14 de nos étudiants de la Stax Academy pour donner des concerts dans la capitale américaine. Ils se sont produits pendant 3 jours devant le Washington Monument, non loin de la Maison Blanche où Barack Obama résidait encore. Je revois encore nos gamins sur cette scène interprétant le répertoire de Stax qu'une poignée d'hommes d'affaires blancs avaient tenté de détruire des décennies plus tôt. Ce fut l'un des moments les plus émouvants de ma carrière et les gamins m'ont épaté car ils comprenaient l'importance de l'événement. Ils avaient compris que leur rôle, ce jour-là, était de préserver un héritage à destination de la jeune génération. Je pense donc que nous avons désormais l'obligation d'éduquer tous ces jeunes pour qu'ils connaissent l'histoire de leurs parents et grands-parents. Nous pouvons faire cela à travers la bande-son d'une époque. Je ne parle pas ici que de Stax Records. Je parle également des artistes Motown, comme Marvin Gaye, qui ont eu un rôle essentiel autrefois. Nous devons enseigner aux jeunes ce que disent ces artistes et leur faire comprendre qu'ils doivent acquérir une conscience sociale. Ils ont désormais cette responsabilité-là. S'ils décident d'être des artistes, s'ils considèrent représenter une communauté que j'appellerais la génération africaine-américaine du XXIe siècle, ils doivent se préparer à se rendre en Europe, à Washington ou à New York, pour être des exemples, des ambassadeurs, pour perpétuer le message de leurs aînés. Il est donc de mon devoir de leur apprendre l'histoire pour qu'ils se l'approprient. Ils vivent à une époque où ils sont toujours considérés comme des citoyens de seconde classe. Ce sont des enfants noirs que l'on imagine forcément issus de quartiers déshérités, empêtrés dans des affaires de drogue, et qui ne connaissent que le hip-hop et la culture rap. Il faut donc faire tomber ces clichés et prouver au monde que ce n'est pas nécessairement leur cas. Beaucoup d'entre eux ont des rêves, des buts dans la vie, des valeurs. Ils sont futés, certains envisagent une carrière politique, d'autres se voient professeurs dans des universités prestigieuses. Ils ont donc un regard positif sur leur avenir. Ils veulent briser ce cercle vicieux car ici à Memphis, un quart des jeunes de moins de 18 ans vit en dessous du seuil de pauvreté.
C'est justement la question que j'allais vous poser. Est-ce que ces chanteurs, ces jeunes musiciens de la Stax Academy ont conscience du poids patrimonial qu'ils portent en eux?
Les children of the Stax Music Academy are so keenly aware of the legacy they have been given to uphold.
Les jeunes de la Stax Academy ont parfaitement conscience de l'héritage qu'ils portent en eux. Ils connaissent le nom de chacun des artistes du catalogue Stax. Ils étudient leur biographie et leur répertoire avec application. Ils s'intéressent à l'histoire de la communauté noire aux États-Unis. Ils sont vraiment des étudiants passionnés. Et puis, nous avons la chance que certaines légendes du label Stax viennent leur rendre une petite visite de temps en temps. Sam Moore du duo Sam and Dave ou encore William Bell. Et même certains membres de la famille d'Otis Redding, sans oublier Mavis Staples, ils sont tous venus ici pour chanter auprès de tous ces jeunes qui immédiatement comprennent le poids patrimonial de ce label. La fondation Soulsville que nous avons créée repose également sur ce patrimoine inestimable. Nous essayons de faire passer l'idée que si nous donnons leur chance à ces jeunes, peut-être que l'un d'entre eux réussira sa vie. Ils en ont tous conscience et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas laisser tomber leurs aînés qui leur ont tant apporté. Ils les chérissent en quelque sorte.
You know, every one of them, every former Stax artist I know, and they do it in different ways.
Chacun des artistes originels de Stax Records, je pense notamment à Steve Cropper, reviennent pour donner des masterclass ou jouer dans l'orchestre de nos étudiants. Nous en profitons d'ailleurs pour lever des fonds lors de ces concerts. Books T. Jones, l'un des piliers du label Stax, a pris le temps de venir leur donner des conseils. Il leur a fait part de son expérience, les a même encouragés à imaginer un plan B au cas où leur carrière de musicien ne prendrait pas. Ce qui m'émeut le plus, c'est lorsque d'anciens musiciens de Stax voient ces jeunes interpréter leurs chansons. Ils sont souvent bouleversés par le talent de ces gamins. Stax a fermé ses portes une première fois en 1975 et personne ne croyait à la renaissance de ce label. Beaucoup considéraient que ce patrimoine n'avait rien apporté à la culture américaine et était perdu à jamais. Quand ils assistent aujourd'hui aux prestations de nos jeunes, ils se rendent compte que leurs efforts d'autrefois ont porté leurs fruits. Ils comprennent que l'histoire de Stax se poursuit et est désormais entre de bonnes mains.
Oh,
she may be with me. Young girls, they do get weary. Well, thank you.
she's waiting, just anticipating the thing that she'll never, never, never possess, no.
Cette version inédite du classique d'Otis Redding, Try a Little Tenderness, par les jeunes de la Stax Academy, nous a été confiée par Tim Simpson lui-même, tellement fier de ses petits protégés. La Stax Academy s'est produite l'été dernier en France, mais aimerait bien revenir en Europe ou aller en Afrique en 2018. Si vous êtes un promoteur, un organisateur de spectacle ou un producteur sensible au bien-être d'une vingtaine de jeunes gamins fort talentueux, je vous conseille bigrement d'entrer en contact avec Tim Simpson. Ce monsieur est un vrai passionné qui se démène corps et âme pour donner du bonheur et un avenir à des jeunes que la vie n'a pas épargnés. Si vous voulez vous rendre à Memphis, pour vous faire une idée, les équipes du voyagiste équinoxial vous faciliteront forcément la tâche. Vous savez tout. Merci à Baptiste Antoine, Christophe Paget et Igor Strauss, les doublures de nos invités du jour. Merci à Nathalie Laporte, la soul woman du Studio 42, pour cette réalisation tout en finesse et sensibilité. Et puisqu'on parle de soul music, permettez-moi de vous recommander une nouveauté discographique. Il s'agit de Groove Bones, un groupe de soul, funk, reggae, jazz plutôt inspiré et emmené par le bassiste Thierry Fanfan. L'album sortira le 16 mars et un concert de lancement aura lieu le 3 avril au New Morning à Paris. Ne manquez pas Groovebone, vous risqueriez de le regretter. La semaine prochaine, nous parlerons gospel avec trois pieuses ladies, les Como Mamas, qui nous présenteront Move Upstairs, leur dernier album, et se produiront le 13 mars au New Morning à Paris. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.